Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Ces temps-ci, on ne dit plus « droits de l'homme », on parle de « droits humains ». Et quand on veut dénigrer les combats conduits en leur nom et ceux qui y croient, l'expression consacrée devient « droit de l'homisme ». En un demi-siècle, au-delà des organisations humanitaires dédiées à l'aide médicale d'urgence, les organisations non gouvernementales se sont développées à foison dans le monde occidental et sont devenues des acteurs reconnus, sinon toujours bienvenus, de la scène internationale. Avec près de 400 chercheurs et experts de terrain, Human Rights Watch est l'organisation la plus importante dès qu'il s'agit des droits humains proprement dits, de l'analyse et des dénonciations des dénis de justice et des exactions commises sous toutes les latitudes. La crise des réfugiés en Europe et la gestion désastreuse de la part des pays membres de l'Union européenne, les phénomènes migratoires qui affectent à grande échelle d'autres continents, le durcissement des régimes autoritaires a commencé bien sûr par la Russie et la Chine, et aussi la protection que méritent ou non les lanceurs d'alerte, autant de sujets qu'il est passionnant d'explorer avec vous. Ken Roth, bonjour. Vous êtes directeur exécutif de Human Rights Watch et sur votre site et bientôt sur le nôtre, on verra l'abondance des rapports que votre organisation publie sur différentes régions du monde en difficulté. Avec nous aussi Hélène Thiollet, vous êtes chargée de recherche au CNRS, professeure à Sciences Po. Vous êtes spécialiste des mouvements migratoires. Michel Elchaninov, philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, mais ce n'est pas pour cette raison que vous êtes avec nous. Vous avez récemment publié un ouvrage sur les nouveaux dissidents. Avec nous aussi Michel Zotowski, qui va traduire les propos de Ken, et bien sûr Eric Scholl, le directeur de Courrier International. Ken, je commence avec vous. Et avec l'histoire de Human Rights Watch, qui a donc été créée en 1978 et qui s'appelait Helsinki Watch. Et donc, c'était lié aux accords d'Helsinki de 1975.
Exactly. The Helsinki Accords,
oui, les accords d'Helsinki
comprenaient
un passage qui donnait aux organisations qui donnaient le droit de surveiller les droits humains et ce que faisaient les gouvernements. Et donc il y avait des petits groupes à Moscou, à Prague, à Varsovie, qui étaient, ces groupes-là ont été supprimés rapidement. Et donc Helsinki, le groupe Helsinki, a lancé un appel pour créer un groupe spécialisé pour tenter de protéger ces organisations-là. Et on l'a appelé Helsinki Watch, et c'était l'origine de HRW, de Human Rights Watch. Et puis, peu à peu, on a ajouté des régions, et finalement, on a adopté un mandat global qui s'appelle celui de Human Rights Watch.
C'est une organisation d'origine américaine, de statut américain, mais il faut noter qu'il y a eu dans l'histoire de ces différents organismes qui se sont regroupés un American Watch dans les années 1980, c'est-à-dire au moment des guerres civiles en Amérique centrale et des agissements de certains membres, sinon de l'administration américaine en tout cas, de factions armées par la Maison Blanche.
Exactly.
Exactement.
The story of the rise of America's Watch is interesting.
L'histoire justement d'American Watch est très intéressante parce que à l'époque du président Reagan, il y avait un ambassadeur aux Nations Unies qui s'appelait Jean Kirkpatrick, et elle avait la théorie brillante selon laquelle il y avait une différence entre les régimes totalitaires et les régimes autoritaires. Un régime totalitaire, c'était un régime communiste, grosso modo, auquel les États-Unis devraient s'opposer pour avoir des raisons de droits humains. Et un gouvernement autoritaire était un gouvernement militaire de droite qui était amical avec les États-Unis et donc qui pourrait évoluer graduellement et ne devait pas être trop bousculé sur les affaires des droits humains. C'était évidemment un double standard.
And so we created
à l'évidence. America's Watch, et donc nous avons créé American Watch, qui se concentrait spécialement sur les dictatures d'Amérique latine, pour montrer qu'il n'y avait pas de distinction pour nous, qu'on appliquerait les mêmes principes aux gouvernements communistes de l'Europe orientale, tout autant que pour les gouvernements autoritaires de l'Amérique latine.
Et ce principe
s'est terminé depuis.
Et vous a guidé depuis. Donc aujourd'hui, vous avez près de 400 chercheurs. Quelles sont les régions du monde où vous concentrez le plus d'efforts?
J'aurais souhaité avoir le luxe de pouvoir nous concentrer sur une seule région.
Aujourd'hui,
nous nous occupons de 90 pays dans toutes les régions du monde. Mais bien sûr, actuellement, nous sommes principalement préoccupés par les conflits horribles que nous voyons au Moyen-Orient. Évidemment, la Syrie, mais aussi l'Irak, le Yémen et la Libye.
Michel Elchaninov, vous publiez donc ce livre sur les nouveaux dissidents et il est intéressant de faire le lien entre ce que vient de nous expliquer Ken Roth, c'est-à-dire l'origine même de Human Rights Watch liée aux accords d'Helsinki. D'où vient ce mot dissident, sinon de cette même époque dans le monde communiste?
Alors effectivement, le mot dissident est apparu, en tout cas est réapparu au XXe siècle, à la fin des années 1950, en Union soviétique, quand des enfants du dégel, c'est-à-dire de la déstalinisation, ont décidé de manifester pacifiquement, de manière non politique et de manière surtout non clandestine, de manière ouverte, pour alors soit parler de poésie sur la place Maïkovski à Moscou, mais c'était une manière évidemment de se compter, de se retrouver entre opposants du régime communiste, soit plus directement en manifestant sur des places moscovites notamment pour réclamer la libération des premiers dissidents qui étaient alors emprisonnés. Ce qui est intéressant avec effectivement le groupe d'Helsinki, c'est que les dissidents ont des techniques de judoka. C'est-à-dire qu'ils décident non pas de s'opposer de manière frontale et violente au pouvoir, mais d'utiliser ce que le pouvoir leur permet de faire pour l'utiliser à leur encontre. Notamment, les accords d'Helsinki ont permis à des citoyens soviétiques de réclamer des droits qui leur étaient accordés. Et donc de dire, mais pourquoi dans notre pays, on ne nous permet pas d'appliquer des droits que nous avons garantis, notamment par l'accord d'Helsinki. Donc il s'agit effectivement d'une dissidence qui est née en Union soviétique au départ, qui s'est élargie évidemment aux pays de l'Est, au monde communiste en général, mais qui aujourd'hui, finalement, s'applique à énormément de pays. Il n'y a plus beaucoup de pays totalitaires dans le monde, comme vous l'avez dit, Ken Roth, mais il y a énormément de pays autoritaires où cette figure, la dissidence, aujourd'hui fait sens.
Alors, la dissidence russe aujourd'hui, sous le régime de Vladimir Poutine, vous aviez écrit un excellent petit livre qui s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Que sont les dissidents russes aujourd'hui? On connaît à peu près Alexandre Navalny, enfin les quelques très très courageux militants politiques contre le Kremlin. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont ces nouveaux dissidents.
Effectivement, c'est-à-dire que depuis le retour à la présidence de Vladimir Poutine en 2012, il y a eu une crispation très nette du régime. Il y a eu notamment la guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée, l'aventure syrienne de Vladimir Poutine. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'opposition russe, qui existait encore il y a quelques années en Russie, qui était à peu près structurée, même si elle ne pouvait pas participer de manière pleine et entière aux élections. L'opposition russe, depuis le meurtre de Boris Nemtsov, cette grande figure démocrate qui a été assassinée au pied du Kremlin le 27 février 2015, eh bien on assiste à ce qu'on peut appeler un devenir dissident de l'opposition russe. Aujourd'hui, être un opposant politique en Russie devient très compliqué. Alors, je vous cite le cas, par exemple, d'un dirigeant de parti d'opposition, Mikhail Kassianov, qui a été attaqué dans un restaurant en février 2016 parce qu'il avait été, il est évidemment critique du pouvoir, il avait été menacé par le président tchétchène Kadyrov. Bref, aujourd'hui, l'opposition russe est en train de tout simplement d'être empêchée d'exprimer sa voix, de s'opposer. Ouais. Et du coup, le devenir dissident s'exprime par une sorte de retour aux méthodes des années 60. Aujourd'hui, on a des artistes. Alors, on connaît les Pussy Riot qui, en 2012, avaient chanté une prière punk dans une dans la grande cathédrale de Moscou, qui symbolisait un peu l'union idéologique entre l'Église et le Kremlin. Aujourd'hui, il y a des artistes qui font des actions individuelles.
Oui, il y a celui qui s'est cousu les lèvres, ou qui s'est coupé une oreille.
Alors Piotr Pavlensky, un artiste actionniste assez radical, hein, il s'est effectivement coupé un lobe d'oreille, d'ailleurs dans un lieu culte, entre guillemets, de la dissidence, qui est l'Institut Serbski, où on traitait les dissidents de malades psychiatriques dans les années 60. Lui, il s'est coupé l'oreille là, et récemment, il a fait une action très spectaculaire, il a pris un bidon d'essence, c'était en novembre 2015, et il a incendié les portes du FSB, le bâtiment
donc des services du KGB. Secrets.
Voilà. Alors que c'est un artiste, aujourd'hui, il a des procès, il a fait 21 jours d'expertise psychiatrique, comme à l'époque de la dissidence, et il va sans doute passer pas mal de temps en prison pour des actions artistiques, individuelles, radicales, mais non violentes.
Ken Ross, que peut être l'action de Human Rights Watch, qui je le rappelle, est une ONG spécifiquement dédiée à l'analyse et à l'observation de tout ce qui enfreint les libertés individuelles. Que peut faire Human Rights Watch en Russie aujourd'hui?
I think it's important to recognize.
Je crois qu'il est important de reconnaître que
Putin cares very much about his reputation.
Fait très attention à sa réputation.
Particularly in Europe.
Particulièrement en ce qui concerne l'Europe.
Because he wants first of all to get the Ukraine sanctions lifted.
Il veut que les sanctions au sujet de l'Ukraine soient levées.
So he needs European
opinion.
Donc
il a besoin de l'opinion européenne en sa faveur.
And frankly, he would like
et très franchement,
to, divide Europe,
il aimerait bien diviser l'Europe
because he sees Russia
parce qu'il voit la Russie comme beaucoup plus puissante si l'Europe est divisée.
Mais néanmoins, il impose aux ONG, et surtout celles qui ont des liens avec l'Occident, qui sont financées par l'Occident, et c'est évidemment le cas de Human Rights Watch, il impose maintenant quasiment une forme de paralysie.
Putin is terrified of NGOs, of civil society.
Terrifié par la société civile, par les ONG.
For him, the nightmare.
Pour lui, le cauchemar.
Is a color revolution.
C'est une révolution.
And he sees de couleur.
And he sees color revolutions.
Et il voit les révolutions de couleur comme dirigées, comme menées par les ONG.
And in fact, he fears today's NGOs.
Et en fait, il craint les ONG d'aujourd'hui que celles qui existait précédemment. Parce que les ONG sont aujourd'hui comme des superpuissances aidées par les médias.
Par les médias sociaux, les réseaux sociaux.
Exactly, because,
tout à fait.
Civil society or NGOs,
la société civile et les ONG sont très importantes parce qu'elles permettent à des individus isolés de pouvoir se réunir, de se lier et de se faire entendre.
Now that you have social media,
maintenant qu'il y a les médias sociaux,
it means that NGOs
ça signifie
are able
que les ONG sont capables de mobiliser des milliers de gens dans les rues.
We saw that with the Tahrir Square revolution
avec
in Cairo.
Les histoires du square Tahrir, de la place Tahrir au Caire.
We saw it in the Maidan
on l'a vu dans la révolution de Maidan en Ukraine.
We saw it in Occupy Central in Hong Kong.
On l'a vu avec Occupy à Hong Kong.
And the nightmare for Putin
et le cauchemar pour Poutine,
that would
c'est que ça pourrait être dupliqué à Moscou.
Et on a vu d'ailleurs que le fondateur du principal réseau social russe, Pavel Durov, qui a créé en gros l'équivalent de Facebook, a fui la Russie et il vit quelque part entre Londres et des endroits plus ensoleillés, après avoir refusé de livrer au FSB, le registre des adresses ukrainiennes au moment de Maïdan. On voit que vos experts, Ken Ross, les experts de Human Rights Watch, sont aussi appelés comme témoins dans de grands procès de ce qui est devenu une forme de justice pénale internationale. Je pense notamment au tribunal spécial sur l'ex-Yougoslavie. Vous considérez que cela fait partie aussi de votre travail?
Absolutely, that's an essential part of our work.
Tout à fait. C'est une partie essentielle de notre travail. Parce que traditionnellement, si un dirigeant voulait ne pas être puni pour des crimes de masse, eh bien, il massacrait ou tuait quelques avocats généraux et quelques juges. Et là, il aurait eu une impunité garantie.
But the emergence of things like the International Criminal Court in The Hague,
comme cette Cour internationale de justice à La Haye,
means that there is now
signifie qu'il y a maintenant un tribunal qui est au-delà des dictateurs, qu'ils ne peuvent pas attaquer.
That provides the hope of justice for victims.
Ça donne un espoir de justice pour les victimes.
And it provides
et ça fournit aussi une méthode pour que ceux qui perpétrent ce genre d'action ne le fassent pas.
Votre ONG a joué un rôle particulièrement important dans le procès à charge contre Hissène Habré, l'ancien président du Tchad. Le verdict, donc poursuivi pour crime contre l'humanité, il est au Sénégal, ça se passe au Sénégal. Le verdict doit être rendu en principe le 30 mai, donc dans quelques jours. Là aussi, vos chercheurs ont apporté au fil des années quoi, des témoignages de victimes.
In the case of Hissène Habré,
dans le cas de Hissène Habré,
Human Rights Watch actually collected documentary evidence of the torture and executions.
Des preuves des tortures et des exécutions dans les prisons de Habré.
We also worked with Chadian human rights activists.
Nous avons travaillé aussi avec des militants tchadiens des droits humains pour que les victimes de Habré, ceux qui ont survécu, qu'elles puissent arriver au Sénégal pour pouvoir témoigner à son procès.
And one of the incredibly moving things
une des choses les plus émouvantes
about the Hissène Habré trial
au sujet du jugement d'Hissène Habré, c'était de regarder les victimes en train de regarder ceux qui les avaient torturés dans les yeux et sourire et raconter ce que leur bourreau leur avait fait. Habré n'avait pas d'autre choix que d'être là, dans la cour, et d'écouter ce que disaient les victimes et d'attendre le jugement du tribunal.
Jugement donc qui doit intervenir en principe le 30 mai. Hélène Thiollet, vous avez travaillé, vécu en Afrique. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS, prof à Sciences Po, spécialiste des mouvements migratoires. Nous sommes tellement obnubilés aujourd'hui en Europe par la façon dont nos propres pays subissent dans certains cas ou en tout cas doivent faire face à un afflux migratoire quasiment sans précédent en Europe, qu'on néglige le fait que l'Afrique est le continent où ces mouvements migratoires ont une ampleur encore bien plus vaste.
Absolument, et même plus largement, le Haut Commissariat aux réfugiés nous dit chaque année que c'est l'immense majorité des déplacés par la violence qui est installée dans le monde en développement. 86% des personnes déplacées par la violence dans le monde, des 59 millions de déplacés par la violence dans le monde, sont à proximité de leur pays d'origine dans des pays pauvres. On peut penser aux Afghans, au Pakistan ou en Iran. On peut penser aux Somaliens qui sont au Kenya, en Éthiopie ou au Yémen. On peut penser aux Érythréens qui sont d'abord au Soudan, au Yémen ou en Éthiopie. On peut penser bien sûr aux Syriens qui, parmi les 4,2 millions de réfugiés syriens, sont surtout au Liban, en Jordanie et en Turquie.
Un chiffre à propos des Syriens, parce qu'on ne s'en rend pas compte en France. Si l'on rapporte la proportion de Syriens qui ont quitté leur pays par rapport à notre propre population en France, cela représenterait à peu près 15 millions de Français, me semble-t-il. Le rapport entre le pourcentage d'exilés et la population syrienne d'origine. Mais restons un moment sur ce qui se passe dans le continent africain, donnez-nous un ordre de grandeur. Dans ces immenses camps parfaitement démunis que l'on voit en Ouganda, au Kenya et ailleurs, qu'est-ce que ça représente en proportion ?
En proportion de la population, si vous voulez, il y a environ un million, un peu plus d'un million de réfugiés somaliens pour une population qui est quand même modeste. Et la plupart de ces réfugiés somaliens sont au Kenya. Ils sont au Kenya dans deux types d'endroits, dans les camps, notamment le camp de Dadaab à la frontière somalo-kenyane, qui a hébergé plusieurs centaines de milliers de Somaliens et est devenu une sorte de, ou plutôt l'ensemble des camps de Dadaab, qui forment une sorte de constellation de camps, représente maintenant quasiment un pôle urbain à la frontière somalo-kenyane. Mais les réfugiés ne sont pas majoritairement dans les camps. En fait, il n'y a que 30% des réfugiés des déplacés par la violence qui sont dans des camps de réfugiés gérés en général par le Haut Commissariat aux réfugiés. La majorité des déplacés par la violence sont en fait en zone urbaine, très minoritairement en zone rurale, c'est-à-dire qu'ils sont largement laissés à eux-mêmes. Ils sont, comme nous dit modestement le Haut Commissariat aux réfugiés, « spontaneously settled », c'est-à-dire installés de manière spontanée.
C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent.
Ils font ce qu'ils peuvent. Donc, en fait, on a souvent une vision très déformée du phénomène de l'exil. On pense que la majorité des exilés viennent dans les pays occidentaux. C'est très, très largement faux. Encore une fois, 86% des déplacés par la violence sont dans des pays pauvres. On pense qu'ils sont tous dans des camps. C'est encore une fois très largement faux. Et même si on regarde la crise, ce qu'on appelle la crise des migrants ou la crise des réfugiés ou la crise de en Europe, on nous parle de effectivement 1 million de demandeurs d'asile qui seraient arrivés en Europe entre 2011 et aujourd'hui. Mais encore une fois, ces chiffres qui sont des chiffres cumulés, hein, il faut le rappeler, ne représentent qu'à peine 10% de la population syrienne véritablement exilée. Et si on regarde mieux, la majorité des Syriens qui sont déplacés par la violence sont en fait déplacés à l'intérieur des frontières de leur propre pays. Et là, on touche un phénomène encore plus intéressant. Si on réfléchit bien, non seulement à l'échelle globale, l'exode des personnes déplacées par la violence politique est cantonné dans le monde en développement à proximité des zones de guerre et des zones de crise politique. Mais de manière encore plus profonde, cet endiguement global cantonnent les individus déplacés par la violence à l'intérieur des frontières de leur propre pays, souvent faute de moyens, au sens financier ou de moyens matériels, ou de moyens politiques, les frontières sont fermées, pour quitter les zones de violence. Donc on a, si vous voulez, une sorte de double cantonnement ou de double endiguement de ces populations qui sont de plus en plus enfermées à l'intérieur de zones extrêmement dangereuses dans lesquelles leur vie est bien sûr mise en danger.
Et vis-à-vis desquels, bien évidemment, quel que soit le nombre d'ONG avec des moyens limités qui s'efforcent d'agir sur place, quels que soient aussi les moyens de plus en plus limités de l'agence spécialisée des Nations Unies, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, totalement débordé maintenant et qui souffre d'un sous-financement chronique, on voit bien que ces situations ne peuvent qu'empirer. Ken Roth, votre organisation Human Rights Watch publie rapport après rapport sur la situation des réfugiés qui arrivent par la Grèce ou par d'autres routes. Et ce qui m'a frappé dans ces rapports, qui sont toujours très précis, très minutieux, c'est que vous ne faites pas vraiment la distinction que s'efforcent de faire les autorités étatiques entre les migrants économiques et les réfugiés fuyant des zones de guerre et qui donc ont droit, d'après les conventions internationales, à l'asile politique.
No, Christine, we do recognize that there's a legal distinction.
Christine, en fait, il y a une distinction légale que nous reconnaissons entre ces deux populations.
A formal refugee.
Un réfugié au plan formel.
That is somebody who is fleeing persecution.
C'est quelqu'un qui fuit la persécution.
Has a right to have his or her claim to asylum.
À avoir un asile.
If they arrive on a shore in Greece, say.
S'il arrive par exemple sur les rives de la Grèce.
An economic migrant does not have the right to stay.
Et un migrant économique n'aurait pas le droit de rester.
Mais il me semble que dans vos rapports, et pourquoi pas, vous parlez des réfugiés. Tellement il est difficile d'ailleurs de faire le distinguo entre réfugiés et migrants. Et d'ailleurs on le voit dans l'accord qui a été passé, en fait de façon quasi bilatérale entre Mme Merkel et le président turc. On voit que jusqu'à présent, me semble-t-il, sont surtout des migrants économiques, des Afghans surtout, qui ont été reflués en Turquie. Je me trompe?
Well, what we object to in the deal between the EU.
Nous avons soulevé des objections entre au sujet de cet accord entre Madame Merkel et la Turquie. C'est que l'Union européenne dit principalement que
oui,
nous allons entendre vos demandes d'asile en Grèce,
but we will reject it,
mais nous les rejetterons. En théorie, on peut vous renvoyer en Turquie où votre situation est assurée, elle est sûre.
And we dispute that characterization of Turkey
et
as safe.
Nous questionnons cette réalité de la sécurité des gens en Turquie.
And so we've pushed,
et donc,
Angela Merkel and others
nous avons poussé Mme Merkel et d'autres à trouver une manière de
regain control of Europe's borders.
Reprendre contrôle des frontières européennes sans faire semblant que la Turquie soit un pays sûr pour qu'on puisse y renvoyer des gens. Si je peux prendre un pas en arrière, si vous voulez bien. La crise des réfugiés, je crois qu'il est important de le comprendre, n'est pas un problème de capacité, mais c'est un problème de politique.
Le million de personnes
qui a traversé la Méditerranée en 2015
représente
0,2% de la population de l'Union européenne.
Rich Europe can handle that.
Et l'Europe peut vraiment l'intégrer.
But the problem,
mais le problème,
the reason for the rise of
la
the far right,
pour laquelle on voit l'extrême droite monter ainsi, c'était que l'Europe avait perdu le contrôle de ses frontières et que derrière les réfugiés politiques, il y avait un nombre infini de migrants économiques. Donc l'Europe avait besoin de mettre un terme au chaos. Mais il y a des façons de le faire sans renvoyer des gens en Turquie sur la présupposition que la Turquie est un endroit sûr alors qu'elle ne l'est pas.
Oui, c'est évidemment toujours le discours légitime des organisations non gouvernementales, ce à quoi les responsables de nos gouvernements, élus démocratiquement, répondent tantôt qu'ils doivent mettre en place des dispositifs réglementaires, en l'occurrence au niveau de l'Union européenne, le règlement de Dublin, qui est complètement dépassé par la situation actuelle, et plus encore tenir compte de leurs opinions publiques. Et il me semble qu'aux États-Unis, où vous êtes en pleine campagne présidentielle, et quelle campagne, on a vu, à propos des réfugiés en particulier, celui qui est devenu de fait le candidat républicain, Donald Trump, expliquer qu'il n'était évidemment plus question pas du tout question de laisser rentrer un seul réfugié. Donc là aussi, on voit que dans nos pays démocratiques, il y a ces crispations populistes.
C'est très facile pour les démagogues d'utiliser les réfugiés.
Mais
l'idée que les réfugiés représentent une menace sécuritaire n'a aucune base réelle. Pour un réfugié syrien, pour qu'il puisse arriver aux États-Unis, il doit passer par des multiples filtrages pendant un processus qui peut prendre 2 ans. Si vous étiez Daesh, le dernier endroit où vous pourriez envoyer quelqu'un, ce serait sous forme de réfugié.
Alors que vers l'Europe, c'est facile. Et on a vu notamment parmi les auteurs des attentats de novembre dernier à Paris et les auteurs des attentats en Belgique, on a vu évidemment des émissaires de Daesh utilisant de faux passeports syriens et passant par les hotspots grecs.
Sauf que dans le cas de l'Europe, il est vrai qu'il y a eu quelques infiltrations. Mais la grande menace sécuritaire en Europe, c'est en fait, elle vient des communautés migrantes de seconde et de troisième génération. Ça ne vient pas des réfugiés. Et donc, il y a une tendance à transformer les réfugiés en bouc émissaire pour leur faire porter le chapeau pour tous les problèmes qui sont véritablement un problème du manque d'immigration, de l'échec de l'immigration des immigrants à long terme ici en Europe.
De l'intégration, oui. Et Hélène Thiollet, vous avez travaillé sur le terrain, spécialiste des migrations, vous avez travaillé sur le terrain en Érythrée, en Syrie. quand vous êtes là-bas et que vous regardez l'Europe, cette espèce de myopie européenne, à se regarder le nombril, mais à oublier aussi que la guerre peut exister. Enfin, tout se passe comme si le premier succès de l'Union européenne était devenu l'un de ses problèmes. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus un monde, ou en tout cas une Europe, face au conflit. Comme si on avait gommé la notion de conflit de notre mémoire.
Oui, l'Europe s'est construite contre la possibilité d'une guerre entre les pays membres, mais elle a oublié qu'elle était, qu'elle faisait partie, on va dire, d'un environnement géographique, qu'elle pouvait elle-même être agitée de conflits ou qu'elle pouvait se trouver aux frontières de conflits très brutaux. La première piqûre de rappel, qui n'est pas exactement une petite piqûre de rappel, c'était le début des années 90, avec des flux de réfugiés, justement, tout à fait comparables à ceux que les frontières européennes connaissent aujourd'hui, qui venaient de l'ex-Yougoslavie, avec des années qui comptaient plus de 400 000 demandeurs d'asile qui venaient de des ex-républiques yougoslaves vers l'Allemagne, pour l'Allemagne seule. Donc en fait, la crise qu'on connaît aujourd'hui, si on voulait être un petit peu sceptique ou un peu pragmatique, on pourrait dire qu'elle est en fait le produit de l'extension de l'Union européenne. Les frontières de l'Union européenne étaient il y a quelque temps encore dans les Balkans. Une guerre aux frontières de l'Union, c'était une guerre dans les Balkans. Aujourd'hui, une guerre aux frontières de l'Union, c'est une guerre au Proche-Orient. Et l'Europe semble avoir oublié que la géographie compte et que les petits éléments d'ordre de grandeur que j'ai rappelé il y a quelque temps, c'est-à-dire le fait que les réfugiés sont principalement à proximité de leur pays d'origine et dans le voisinage des zones de guerre. Bien, il se trouve que l'Europe est voisine d'une zone de guerre. Donc, le caractère, on va dire, d'impréparation de l'Union européenne vis-à-vis des flux de réfugiés, notamment syriens, reste tout à fait étonnant et c'est, à mon avis, un oubli de la géographie.
Michel Tchaninov, un oubli de la géographie, un oubli de l'histoire, mais aussi une maîtrise de la technologie qui fait qu'on voit dans le monde arabe, et on y a cru sans doute avec trop d'optimisme ou de naïveté au moment de ce qu'on a appelé le printemps arabe, on l'a vu, je pense notamment à ce garçon qui travaillait d'ailleurs chez Google au Caire, qui est maintenant réfugié aux États-Unis, on a vu une génération s'emparer de cette technologie pour devenir, en fait, ce que vous appelleriez des dissidents.
Oui, c'est-à-dire que moi, je me souviens d'anciens dissidents soviétiques qui m'ont dit que si Internet avait existé dans les années 60, 1970, il y aurait déjà eu plus d'Union soviétique tellement, effectivement, le problème, c'était la diffusion de l'information. À l'époque, on avait le samizdat, c'est-à-dire qu'on tapait et on copiait à la machine à écrire des bulletins d'information qu'on essayait de faire passer dans toute l'Union. C'était très compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, évidemment, c'est beaucoup plus simple, mais il faut surtout pas se faire, je pense, une vision d'Internet. Puisque Internet, c'est un bâton à deux bouts et que les États, d'abord, ont des arsenaux législatifs de plus en plus sophistiqués.
Et puis, ils s'en servent eux-mêmes.
Pour l'interdire ou le contrôler. Mmh. Et puis, surtout, ils s'en servent eux-mêmes. Si on veut reprendre l'exemple de la Russie, le Kremlin est un spécialiste, évidemment rompu avec les techniques héritées du KGB, à la propagande sur Internet. Et on le voit jusqu'en France. Vous le disiez tout à l'heure, Poutine cherche à diviser l'Europe et le fait notamment par l'outil de l'influence sur Internet. C'est pareil dans pas mal de pays du monde. C'est-à-dire que, en fait, Internet c'est une arme aujourd'hui qui est utilisée de manière massive par les pouvoirs, soit pour surveiller, on le sait, mais ça c'est partout, hein. On se souvient du scandale de la NSA, soit pour réprimer, soit pour faire de la contre-propagande, ou disons de la propagande. Donc Internet, c'est un outil de libération qui est un nouveau, en fait, c'est un nouveau champ de bataille, tout simplement.
Cette bataille, Ken Roth, on voit que Human Rights Watch, d'abord, y participe, puisque bien évidemment les réseaux sociaux et l'extraordinaire volant de moyens qu'offre Internet, vous les utilisez. Mais vous vous inscrivez dans une tradition juridique qui est très différente en ce qui concerne les lanceurs d'alerte. Aux États-Unis, les lanceurs d'alerte, qu'on appelle les whistleblowers, qui déjà ne veut pas dire tout à fait la même chose que la traduction en français, me semble-t-il, bénéficient d'une forme de protection. En tout cas, il y a des lois même très anciennes, qui ont été passées pour protéger. J'ai retrouvé mention d'une loi qui date de 1863 pour protéger des militaires qui, au moment de la guerre civile, qui dénonçaient les fraudes de sous-traitants qui surfacturaient les fournitures données à l'armée. Comment vous situez-vous par rapport à cette problématique qui, vue de France, reste assez confuse ? Les lanceurs d'alerte, est-ce qu'on peut tous les mettre d'abord dans le même sac ?
Well, what in English is called whistleblowers.
Mais ce qu'on appelle en anglais les whistleblowers.
Donc les français, souffleurs de...
Ceux qui sifflent dans un sifflet, mais en fait voilà. C'est les dénonciateurs.
Alors, oui, alors, dénonciateurs, délateurs, c'est là où...
I think it's important to distinguish...
Il est important de faire la distinction entre les diverses raisons pour lesquelles les gens voudraient lancer une alerte. Si c'est pour révéler des actes criminels ou des mauvaises actions,
bon,
ils devraient être protégés. On peut l'argumenter ainsi.
Par exemple,
I think the best example is Snowden.
Le meilleur exemple, c'est Snowden.
Snowden did all of us a huge service.
Snowden nous a tous rendu un excellent service en révélant à quel point le gouvernement américain était impliqué dans des intrusions massives dans notre vie privée, à nous tous à travers le monde.
Et donc,
même si techniquement il a violé la loi, c'était un employé du gouvernement qui avait promis de garder secret son travail. Et il a outrepassé cette promesse. Il a rompu sa promesse. Mais il devrait être protégé parce qu'il a révélé les illégalités commises par le gouvernement américain. Et en fait, le gouvernement américain a déjà commencé à changer à cause de ces révélations.
En revanche, quand il s'agit de WikiLeaks et de Julian Assange, qui n'est pas citoyen américain, hein, il est australien, est-ce que vous diriez là aussi que les WikiLeaks ont été utiles ?
With WikiLeaks, I think it's important
to distinguish between. Il faut faire la distinction. Je pense que c'est important
Bradley,
de faire
now Chelsea Manning.
Entre Bradley maintenant Chelsea Manning. Mm-hmm.
And Assange.
Et Julian
Alors,
Assange.
Bannick était donc ce jeune militaire en poste en Irak, un grade très bas dans la hiérarchie et qui, lui, bien que militaire, donc, a balancé sur Internet des monceaux de documents, enfin, cryptés, bien sûr.
Manning was working for the U.S. government.
Manning travaillait pour le gouvernement américain.
So he's like Snowden in that respect.
Donc, il est comme Snowden de ce point de vue-là.
But what he revealed
Mais ce qu'il a révélé
was for the most part
était
just the inner
en grande
workings
partie
of the State Department.
Les dossiers internes du Département d'État.
There was no significant wrongdoing.
Il n'y avait pas de malversation significative qui ait été révélée
so
par ces
Human
documents.
Rights Watch has not protested Donc, against the prosecution of Manning.
Human Rights Watch n'a pas protesté contre les poursuites qui ont été faites à l'encontre de Manning.
Mais
il est important de reconnaître que Assange
is in the position of a journalist.
Est dans une position de journaliste.
He received confidential
il a information. Reçu des informations confidentielles
And even if the leaker
et même
was wrong,
si celui qui a révélé ces informations était dans le tort,
a journalist has a right
un
to
journaliste
publish that
a le droit de publier cette information
without being prosecuted.
Sans être poursuivi.
So unless Christine,
Donc,
you know, you want to open
Christine,
yourself up for prosecution,
à moins que vous vouliez vous livrer à une poursuite en publiant un secret qui vous a été donné par quelqu'un qui travaillerait pour le gouvernement français,
we have to protect Assange
eh bien, il faut protéger Assange parce que c'est un journaliste.
Précisément, la presse en Europe est assez unanimement pour les lanceurs d'alerte, on l'a encore vérifié, Eric Scholl, bonjour, je rappelle que vous dirigez Courrier International, on l'a encore vérifié à l'occasion des procès qui sont en cours au Luxembourg contre deux Français qui ont donc publié des documents qui appartenaient à l'un de leurs clients. Vous avez relevé dans la presse en Espagne, je crois, et aussi en République tchèque, des papiers très contradictoires sur la question.
Ben oui, alors en Espagne, il y a le cas de cette femme, Ana Garrido, qui est bien placé effectivement pour savoir à quel point il est important d'être protégé quand on est une lanceuse d'alerte. Le New York Times vient de lui consacrer un grand article dans lequel on apprend que les lanceurs d'alerte en Espagne sont encore aujourd'hui une cause perdue. Au fond, Ana Garrido aurait pu rester la fonctionnaire municipale qu'elle était depuis plus de deux décennies, à Boadilla del Monte, une petite bourgade dans les environs de Madrid. Mais écrit le journaliste du New York Times, depuis qu'elle a révélé une affaire de corruption entourant les contrats publics de sa ville, sa vie s'est transformée en 7 années de calvaire. Harcèlement, dépression, arrêt maladie, menace de mort et finalement démission de son poste. Aujourd'hui, Ana Garrido doit vendre des bracelets confectionnés à la main pour s'en sortir et pour couvrir ses frais d'avocat. Elle est devenue le symbole des activistes anticorruption qui réclament une loi en Espagne pour protéger ceux qui exposent au grand jour les affaires, raconte le New York Times, car poursuit le journal. Si les États-Unis ou la Grande-Bretagne disposent bien de ce type de loi, on en parlait, et si en Europe certains leur emboîtent le pas, rien de tel en Espagne. Ce manque de législation a contribué à une culture d'impunité, dénonce le journal. Les ennuis d'Ana Garrido sont arrivés le jour où elle a transmis le fruit de ses découvertes à une association de lutte contre la corruption, Mano Limpias, main propre, une organisation qui a porté le combat devant la justice. Le problème, écrit le quotidien new-yorkais, c'est que Mano Limpias a révélé au passage l'identité de la lanceuse d'alerte. Les efforts d'Ana Garrido ne sont toutefois pas restés vains. Elle a mis à jour un énorme scandale, éclaboussant le Parti populaire du Premier ministre sortant, de Mariano Rajoy, et de nombreux élus locaux.
Mais vous avez aussi déniché dans la presse tchèque, ça franchement il n'y a que vous qui réussissez à faire cela, un papier au contraire extrêmement critique vis-à-vis du principe même du lanceur d'alerte.
Oui, et c'est une véritable charge qu'envoie Bohumil Dolezal, un journaliste politique tchèque, qui est aussi un ancien dissident sous le régime communiste. Il avait signé la charte 77. Je suis sûr que Michel Etchaninov voit à quoi je fais allusion. Et il a signé donc cet article dans un forum d'information, Svobodné Forum, en réaction aux Panama Papers. Pour cet intellectuel, cette opération Panama Papers revêt toutes les caractéristiques des divertissements préféré d'une société occidentale hystérisée, un lynchage médiatique mondialisé doublé d'une chasse aux sorcières. Et il poursuit, c'est là le symptôme de décadence d'une société occidentale devenue impuissante face à des soi-disant contradicteurs comme la Chine ou la Russie. Alors sur le fond, Bohumil Dolezal estime que cette société occidentale a toujours été fondée sur la confiance. L'alternative, explique le Tchèque, réside dans une société construite sur le principe de défiance. Mais il prévient, si cette vague générale de délateurs se développe sur ce principe, il est certes possible de construire une société universelle, mais elle n'aura qu'un seul défaut, ce sera une société totalitaire. Bon, reconnaissons-le, cette accusation portée par Bohumil Dolezal à l'égard des lanceurs d'alerte reste un avis très isolé, ce qui n'empêche pas le Tchèque de conclure « J'estime qu'il est absolument essentiel de s'opposer résolument à cette forme d'hystérie, ce que malheureusement personne à ce jour n'a encore fait chez nous. »
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Ken Roth, est-ce que la publication des Panama Papers, qui sont donc dans un volume encore plus gigantesque, la dernière irruption de secrets, en l'occurrence fiscaux et bancaires, dans la sphère publique, aux États-Unis, est-ce que ces divulgations ont eu le même retentissement qu'en Europe ?
Yes, there was a lot of interest in the Panama
Papers. Oui, il y a eu beaucoup d'intérêt pour les Panama Papers.
And we saw this as evidence of,
et on a eu une preuve,
of massive corruption.
Comme une preuve de la corruption massive.
And while people may have secret bank accounts,
vous savez, les gens peuvent avoir des comptes bankers secrets pour des raisons légitimes.
The assumption
aussi.
Is that a lot of people
la supposition, c'est que soit des gens cachaient leurs avoirs des autorités fiscales ou cachaient des fonds qu'ils n'auraient pas eu le droit de recevoir.
Alors évidemment, en France surtout, il y a quand même toujours ce soupçon contre tout ce qui est américain. J'ai entendu beaucoup de gens dire « mais comment on ne voit pas d'Américains dans les Panama Papers, donc c'est louche, les Panama Papers, ça doit être une opération de la CIA contre le reste du monde ».
Well, I don't know the answer to that.
Je ne connais pas la réponse à votre question.
And it may be, frankly, that American tax authorities are more vigorous.
Il est possible que les autorités fiscales américaines soient plus vigoureuses.
Et il y a au moins 3 États américains sur 50 où il y a des dispositions fiscales extrêmement avantageuses pour les entreprises.
Yes, no, that's what the commentary has been.
Oui, oui, c'est ce commentaire qui a été fait.
In other words, one thing that we saw with the Panama Papers,
ce qu'on a pu voir avec les Panama Papers,
that it was easy to hide behind,
il était facile de se cacher derrière des coquilles d'entreprises.
And there are states like Delaware,
et il y a des États comme le Delaware,
which makes it easy for
qui rendent extrêmement facile pour des individus de créer ces genres de coquilles de protection
and to hide their wealth.
Et d'y cacher leur richesse.
And so, with the Panama Papers
Donc avec la publication des Panama Papers,
there was another call on those states,
il y a eu un nouvel appel to close à ces these États loopholes. De fermer ces trous, effectivement, qui permettaient aux gens d'échapper au fisc.
Michel Elchaninov, c'est en Chine, probablement, que les Panama Papers ont créé le plus d'émoi, en tout cas au sommet de la hiérarchie du pouvoir en Chine, puisque les médias chinois ont purement et simplement reçu l'ordre de ne pas en faire mention du tout. Je crois qu'un beau-frère du président Xi est directement impliqué. Plus généralement, et vous en parlez bien sûr dans votre livre sur les nouveaux dissidents, comment est-ce que la dissidence en Chine par rapport à un régime, et on a fait une émission il n'y a pas si longtemps ici même sur le pouvoir du président Xi, ce régime qui se raidit et qui devient de plus en plus personnalisé et autoritaire, comment est-ce que la dissidence s'exprime dans la Chine d'aujourd'hui ?
Alors en fait, la Chine est un cas un peu particulier, malheureusement je dirais, parce que la dissidence en Chine n'a jamais disparu. C'est-à-dire que quand il y a eu la chute du mur de Berlin, les dissidents des ex-pays de l'Est ont quitté la scène finalement. Ils ont été remplacés par des politiciens, des hommes politiques, des militants, mais il n'y a plus de dissidence en Chine. Évidemment, puisque en 1989, il y a eu le massacre de la place Tiananmen et non pas la chute du mur de Berlin comme en Europe, eh bien, la dissidence est restée. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir l'évolution de ces dissidents, puisque effectivement, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, fin 2012, début 2013, présidence qui va a priori durer 10 ans, eh bien, effectivement, on assiste à toute une série de transformations qui sont très inquiétantes. En axant son action sur la lutte contre la corruption, on parlait de la corruption aujourd'hui, phénomène massif qui touche la Chine, eh bien, le président Xi Jinping en a profité pour faire un tour de vis extrêmement sévère autour de la dissidence. J'ai été, pour mon livre, je suis allé à Hong Kong, notamment, où il y a eu Occupy Central, c'est-à-dire ce mouvement de résistance civile très intéressant il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, à Hong Kong, donc qui est un lieu relativement préservé de la pression chinoise, eh bien, il y a eu des libraires et des éditeurs qui avaient publié des livres révélant des secrets intimes de la vie du grand leader chinois, qui ont été enlevés et qui ont été contraints de faire des confessions publiques à la télévision chinoise. C'est quelque chose que évidemment, quand on se souvient ou quand on connaît les années 1960-70, ça nous rappelle la grande période, effectivement, des régimes totalitaires et des confessions publiques des dissidents. C'est en train de revenir en Chine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où, effectivement, avec une lutte contre la corruption très forte, avec des inquiétudes quant à la viabilité de l'économie chinoise et de sa démographie, évidemment une crise écologique majeure, eh bien, il y a la volonté du président chinois et de son entourage d'écraser cette dissidence. Donc on est dans un moment, je pense qu'il faut le dire et il faut le savoir, qui est extrêmement dangereux, extrêmement délicat pour tous ceux qui depuis des décennies se battent pour les droits de l'homme en Chine, avec les difficultés que l'on sait, puisque dans la Chine continentale, on est systématiquement surveillé, mis en prison, harcelé quand on fait acte de dissidence,
mais même à Hong Kong. Et les familles de la même façon.
Et les familles, c'est-à-dire que moi, je pour mon livre, je ne suis pas allé en Chine continentale parce que des spécialistes de la Chine ont expliqué que je mettrais en danger leur famille. Donc je suis allé voir les Tibétains en exil à Dharamsala, je suis allé à Hong Kong, qui est encore un territoire relativement sécurisé pour les dissidents, mais effectivement, en Chine continentale, le tour de vis est terrible. Donc on est dans un moment, effectivement, de crispation. Historiquement, c'est intéressant ce qui se passe. On a cru à un avènement de la démocratie à la suite de la chute du mur de Berlin, à partir de 1989. On a pensé, certains théoriciens comme Fukuyama aux États-Unis, qui a prophétisé la fin de l'histoire, ont pensé que la démocratie libérale allait s'installer partout de manière à peu près harmonieuse. Aujourd'hui, il faut bien constater qu'il y a un retour des autoritarismes un peu partout, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, où c'est devenu encore plus sévère qu'avant, que ce
maintenant,
soit en Turquie,
aux Philippines,
oui. En Europe, où des régimes de plus en plus populistes ou d'extrême droite avancent, progressent. Donc, on est dans une phase historique assez inquiétante, assez difficile. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que les dissidents d'antan, qui avaient un peu disparu, sont en train véritablement de réapparaître parce que face à ces nouveaux autoritarismes, il y a des nouvelles voix qui s'élèvent.
Ken Ross, que peut faire Human Rights Watch en Chine ? Est-ce que vous avez des chercheurs qui parviennent sur le terrain en Chine à travailler ?
We do. We are able to sneak oui. people into China.
Nous pouvons faire pénétrer des gens en Chine.
And we have people based in Hong Kong.
Et nous avons des gens qui sont basés à Hong Kong.
So it is possible to do research.
Donc, il est possible de mener des recherches.
And there are times when we can move things forward in China.
Et il y a des moments où on peut faire avancer les choses en Chine.
For example, Human Rights Watch
Par exemple,
played an important
Human
role
Rights Watch a joué un rôle important
in convincing the Chinese
en convaincant le gouvernement chinois de mettre un terme de faire des rééducations
through labor.
Par le travail, le travail forcé,
which was a form of administrative detention,
qui était une forme de détention administrative,
where the police could put you in
où
prison
la police
for up
pouvait
to
vous mettre en prison jusqu'à 4 ans,
without you even seeing a
sans
judge.
Que vous ne voyiez un juge.
So that was an
Donc,
example where
c'était un exemple où
we were able to work
nous avons pu
Chinese
travailler avec des avocats et des juristes chinois qui croyaient au régime de la loi.
Mm. And that et c'était quand ça? À quelle époque?
This was 2-3 years ago.
C'était il y a 2-3 ans.
But today,
mais aujourd'hui,
it's true, as Michel says, that we are facing
vrai,
the most severe crackdown
on fait face
China
véritablement à un tour de vis extrêmement sévère contre les droits humains.
And Xi Jinping is going
et
after
Xi Jinping
activist lawyers.
Poursuit les avocats activistes en faveur des droits de l'homme.
Human rights lawyers.
Les gens qui sont les activistes des droits humains
independent religious figures,
et les leaders religieux indépendants,
as well as Tibetan and Uyghur activists,
tout comme d'autres activistes
from Tibet or Xinjiang.
Du Tibet ou de Xinjiang.
And so this is something we really haven't seen
et
with this intensity.
On n'avait pas vu cette intensité des poursuites
in 20 years.
Depuis 20 ans.
Et là aussi, un peu à la manière russe, une nouvelle loi vient d'être passée à Pékin concernant les ONG financées ou soutenues indirectement par les Occidentaux, une loi qui oblige en fait quasiment à rapporter ou à espionner leurs activités.
This is the latest technique to try
C'est
to starve
la dernière technique
NGOs.
Pour essayer de faire mourir de faim les ONG.
And we see it in Russia, China, and many other countries.
On l'a vu en Russie, en Chine et dans de très nombreux pays à travers le monde.
They claim that foreign funding of
Ils
NGOs
prétendent que les fonds étrangers
an intrusion on their internal
ONG,
affairs.
C'est une intrusion dans leurs affaires intérieures.
So these are the same governments that
Donc, ce sont les mêmes gouvernements
international investment.
Qui demandent des investissements internationaux
et qui les obtiennent.
They obtain it.
Foreign trade deals.
Et ils cherchent des accords internationaux commerciaux.
They seek foreign aid for humanitarian or development projects.
Une aide internationale pour des projets humanitaires.
But suddenly when
Mais
the aid
soudain,
is to an NGO,
lorsque l'aide parvient à travers une ONG
that will hold the government to account,
qui demandera des comptes au gouvernement,
especially in human rights or the environment,
que ce soit dans le domaine des droits humains ou de l'environnement,
suddenly that's a violation
eh bien là, tout
of their
à soudain, c'est une violation de leur souveraineté nationale.
Michel Elchaninov parlait à l'instant en fait de ce moment d'illusion démocratique, d'optimisme peut-être un peu béat qui a suivi dans nos pays démocratiques la chute du mur de Berlin. On arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Est-ce que vous diriez, Ken Ross, qu'aujourd'hui, cet optimisme n'est plus de mise et qu'au contraire, la mondialisation, le rétrécissement de l'espace, cette interdépendance croissante accentue en fait un recul des droits humains dans le monde.
In my view, governments are always tempted to violate.
Les gouvernements ont toujours cette tentation de violer les droits humains.
It's an easy way to suppress the opposition.
C'est une façon facile de mettre un terme à l'opposition et que les choses se fassent selon la volonté du gouvernement.
The role of the human rights movement.
Le rôle des mouvements des droits humains est d'accroître le coût des violations des droits humains.
Inevitably, this is a tug of war.
Inévitablement, ce sera un jeu de qui sera le plus fort, un bras de fer.
This is a period
c'est un
where
moment
the forces against human
où
rights
les forces
are particularly strong.
Contraires aux droits humains sont particulièrement fortes.
But I'm not pessimistic.
Mais je ne suis pas pessimiste.
I just feel that this is a moment where we have to fight
je pense que c'est un moment où il faut se battre plus fort encore.
Le processus a été commencé pour trouver le successeur de Ban Ki-moon, donc le prochain secrétaire général des Nations Unies. On voit plusieurs candidates, puisque en principe ce serait le moment d'avoir une femme, et notamment une femme d'Europe de l'Est. Ce serait en principe le tour de l'Europe de l'Est. Mais plus globalement, est-ce que vous, Human Rights Watch, vous faites partie des ONG qui réclament un poste officiel auprès du prochain secrétaire général des Nations Unies, de façon à ce que les droits humains soient officiellement représentés au sein de l'organisation internationale.
If you look back at the last two secretary generals,
si on considère ce qui s'est fait sous les deux derniers secrétaires généraux,
each has made important contributions.
Chacun d'entre eux a fait des contributions essentielles dans le domaine des droits humains.
Kofi Annan described human rights as one of the three pillars.
Kofi Annan a décrit les droits humains comme étant un des trois piliers des Nations Unies,
along with security and development.
Avec la sécurité et le développement.
And Ban Ki-moon talked about human rights up front.
A parlé tout d'abord des droits humains.
This is a doctrine that says that
c'est
all
une doctrine
UN
qui dit que dans tous les officiels des Nations Unies devraient promouvoir les droits humains comme étant un des rôles principaux qu'ils ont
mais
à accomplir.
Est-ce que ce serait une bonne idée de fonctionnaliser, en quelque sorte, cette démarche? Est-ce que ce n'est pas contradictoire?
I think it's a necessity.
Je crois qu'il s'agit d'une nécessité.
The United Nations is a powerful
les Nations Unies, véritablement, peuvent agir dans ce genre de domaine.
So in its actions,
donc dans ses actions,
promoting, not undermining rights.
Les Nations Unies devraient promouvoir et non pas torpiller ces droits.
Think about the role of peacekeepers.
Pensez au rôle des forces de maintien de la paix.
You know, they are essential for stopping massacres.
Elles sont essentielles pour empêcher et stopper les massacres.
But they should also not be engaged in sexual exploitation.
Mais elles ne devraient pas non plus être impliquées dans des affaires d'exploitation sexuelle.
It's an illustration of how the UN can be good or bad.
C'est une illustration à quel point les actions des Nations Unies peuvent être considérées comme bonnes ou mauvaises.
Which is why leadership from the top is so important.
C'est pour cela que le leadership venant d'en haut est tellement important.
Et donc, il faudrait créer un nouveau poste de secrétaire général adjoint en charge des droits humains.
Well, there is that post.
Mais ce poste existe.
That is the High Commissioner for Human Rights.
C'est le haut-commissaire pour les droits
de l'homme. C'est toute l'ambiguïté de la démarche entreprise par certaines ONG. Merci mille fois en tout cas. Merci à vous, Ken Roth. Je rappelle que vous dirigez Human Rights Watch. J'encourage nos auditeurs à vérifier sur votre site la qualité et le nombre des rapports que vous publiez sur les diverses régions du monde. Michel Etchaninov, philosophe, vous venez de publier « Les nouveaux dissidents » aux éditions Stock et vous avez publié un très bon livre qui s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Hélène Thiollet, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes professeure à Sciences Po. Vous avez dirigé avec Camille Schmoll et Catherine Vitold-Venden un ouvrage aux éditions CNRS sur les migrations en Méditerranée. Merci à Eric Scholl et à Michel Zlotowski pour la qualité de sa traduction. Luc-Jean Reynaud était ce matin à la réalisation, à la technique Pascal Bénard, à la préparation Meryl Moneghetti. Vous trouverez grâce à elle, bien sûr, et comme chaque semaine sur notre site, toute la bibliographie nécessaire à l'approfondissement de tous les sujets que nous vous avons explorés ce matin. Très bon week-end à tous. Dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Dominique Rousset pour l'économie en question. À samedi prochain.